PrépaCham.
Et les collègues sportifs,
vous voulez progresser?
Rejoignez-nous sur
PrépaCham.
Bonjour Sébastien Rattel, donc nous sommes la classe de seconde option sport et nous travaillons cette année sur le thème de la préparation physique. Donc nous avons particulièrement été interpellés par votre ouvrage « Préparation physique du jeune sportif ». C'est pourquoi nous vous avons invité. Merci de venir nous rencontrer.
Bonjour à vous toutes et tous et merci pour votre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous.
Sébastien, vous êtes professeur des universités et habilité à diriger des recherches en STAPS à l'université Clermont-Auvergne. Vous êtes également membre du laboratoire des adaptations métaboliques à l'exercice en conditions physiologiques et pathologiques. Vous y menez des activités de recherche en physiologie de l'exercice musculaire chez l'enfant. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Eh bien, je suis, tu l'as dit, hein, professeur des universités, donc à l'université Clermont-Auvergne, et puis je suis enseignant-chercheur, hein, donc mon métier, en fait, c'est de faire de la recherche, de produire des connaissances dans le milieu sportif, dans les sciences du sport, et ensuite d'enseigner les connaissances qui sont issues de ces travaux aux différents étudiants qui sont à l'UFR STAPS.
D'accord, merci.
Quelles études avez-vous poursuivies et avez-vous fait des études sportives en parallèle?
Alors là, tu parles de mes études ou de
des études? Oui, de vos études.
De mes études. Alors mes études, moi j'ai été étudiant donc à l'UFR STAPS de Clermont-Ferrand. Et donc j'ai suivi un parcours universitaire allant de la première année. Il y a pas mal d'années, c'était le DUG STAPS, maintenant qui a été remplacé par la licence STAPS. Donc le DUG, c'était deux années, première et deuxième année. Et ensuite, à l'issue de mon DUG, de mes deux premières années, j'ai passé une licence entraînement sportif. Donc ça a été ma troisième année. Et puis après, j'ai fait une maîtrise sur l'entraînement et la performance sportive. Et ensuite, j'ai passé un diplôme, un DEA. Alors, la maîtrise et le DEA, aujourd'hui, ça correspond au master STAPS, notamment entraînement et optimisation de la performance sportive. Et ensuite, à l'issue de mon DEA, on va dire de mon master, en fait, j'ai fait un doctorat d'université qui a duré 3 ans. Et donc c'est un doctorat que j'ai réalisé dans le domaine de la physiologie de l'exercice musculaire chez l'enfant. Et ensuite, j'ai fait un post-doctorat. Donc là, on en est à 8 ans déjà. Et puis, j'ai fait un post-doctorat, un premier qui était en Angleterre, dans le sud-ouest de l'Angleterre, à Exeter. Et puis après, je suis rentré en France et j'ai refait un post-doctorat à Marseille. Et ensuite, j'ai été recruté en tant qu'enseignant-chercheur à l'UFR STAPS. Donc voilà, donc ça représente à peu près une dizaine d'années d'études, voilà, avant d'être enseignant-chercheur à l'UFR STAPS de Clermont-Ferrand.
D'où vous sont venues ces ambitions de devenir chercheur dans la physiologie?
Alors c'est une bonne question. Moi, j'ai toujours été sportif. J'ai toujours adoré faire du sport. Donc ma spécialité était nageur, hein, j'ai fait beaucoup de natation, donc j'ai nagé et été compétiteur pendant plus d'une quinzaine d'années, et donc après j'ai passé d'ailleurs un brevet d'état, donc je suis maître nageur sauveteur, MNS, et puis j'ai toujours été passionné par la biologie, j'ai toujours aimé les sciences de la vie, et puis je me suis dit, mais il y a peut-être des études à faire autour de ces deux passions. Et donc, quand je suis rentré à l'UFR STAPS, j'ai découvert la recherche, notamment à partir de ma troisième année d'études en licence. Et puis après, j'ai décidé de faire de la recherche dans les sciences du sport et m'intéresser notamment à la population de l'enfant, dans le comprendre à l'effort, comment il fonctionne. Et à partir de là, j'ai mené des travaux de recherche pour bien comprendre comment le jeune sportif répondait à l'effort, alors aigu, c'est-à-dire au cours d'un seul exercice, et puis à l'effort chronique, c'est-à-dire lorsque on s'entraîne. Je me suis passionné pour cette thématique de travail.
Et avez-vous encore des ambitions sur des thèmes de recherche ou...
On en a toujours des ambitions. Quand on met un pied dans la recherche, on mène, voilà, on développe des projets de recherche, on fait des études expérimentales, hein, on fait des tests auprès des sportifs, des jeunes, des moins jeunes, donc des enfants, des adolescents, des adultes, des athlètes masters, hein, seniors. Et puis, voilà, quand on mène ces projets de recherche, ces études-là, ben, on a des résultats, et à l'issue de ces résultats-là, eh bien, on a des conclusions, et puis à partir de là, on relance d'autres projets pour faire avancer les connaissances et puis construire une histoire, essayer de comprendre un petit peu mieux les sciences du sport et comment on peut optimiser la performance sportive, notamment lorsqu'on s'intéresse à des jeunes. Eh bien, on essaie d'optimiser l'état de santé, parce qu'il y a la santé mentale, psychologique, physique, des jeunes qui s'entraînent. Et aussi, l'objectif, c'est d'essayer d'optimiser leur niveau de performance plutôt sur du long terme.
Êtes-vous vous-même un grand sportif ?
Alors, moi, j'ai jamais été sportif de haut niveau, hein, de très haut niveau. J'ai jamais été sur une liste d'athlètes de haut niveau. Hein. J'ai été sportif, hein, je me suis entraîné 5-6 fois par semaine, notamment en natation. Hein, donc, j'ai fait des championnats de France, hein, en natation, mais j'ai jamais été athlète de haut niveau. Donc, après, je fais du sport de temps en temps pour maintenir mon état de santé. Mais sinon, j'ai jamais été un sportif de haut niveau.
Donc, nous allons passer sur des questions sur vos recherches.
Menez-vous vos recherches uniquement en laboratoire ? Et pouvez-vous nous décrire le lieu et les expériences possibles ?
Alors, moi, j'ai commencé à faire de la recherche uniquement en laboratoire, c'est-à-dire avec des équipements et qui nous permettent de faire des évaluations sur le muscle, sur le système nerveux, sur le tissu, sur l'os, etc. Donc là, j'ai commencé, moi, à étudier l'enfant dans des conditions de laboratoire. Et ensuite, maintenant, je mène des recherches plutôt sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, il faut sortir un petit peu de ce contexte de laboratoire, parce qu'on est dans des conditions qui sont très, très standardisées. On a des équipements qui sont pas déplaçables et qui sont uniquement dans les laboratoires. Donc il faut passer par là, hein, pour étudier la population que l'on souhaite évaluer. Mais après, il faut aussi sortir de ce contexte de laboratoire, parce que, comme vous le savez tous, hein, eh bien, voilà, tout se passe sur le terrain. Donc il faut aussi faire des mesures on dit écologiques, c'est-à-dire en situation réelle. Et donc, maintenant, il m'arrive de mener des projets de recherche qui sont vraiment uniquement faits sur le terrain.
Est-ce que vos recherches portent uniquement sur un sport en particulier, ou vous êtes un peu tout terrain ?
Pas forcément, parce qu'on étudie, moi j'étudie l'enfant d'une manière générale, c'est-à-dire à l'exercice. Alors ça peut être à l'exercice intense, qui soit de courte durée, donc ça peut être des sprints, des efforts vraiment très très intensifs, mais qui sont plutôt de courte durée, et puis après des efforts qui sont beaucoup plus longs, de type endurance. Donc, bien sûr, on étudie certaines activités plus spécifiques, hein. On a étudié dans le laboratoire, des jeunes qui font du raid, multisport de nature, par exemple. Hein. Alors, ce sont des épreuves plutôt d'endurance qui durent 5h, 5h30, hein, d'après les règles techniques de sécurité qu'impose la Fédération française de triathlon. Et donc là, on est plutôt sur des efforts qui durent, hein, 5h30, ça fait, c'est long. Hein. Alors, c'est pas 5h30 à faire que de la course à pied. Hein. Quand on parle du raid multisport de nature, ça consiste à enchaîner du VTT, de la course d'orientation, ça peut être aussi du kayak, du roller, de la tyrolienne, etc. Et donc on regarde quel est l'impact de ces efforts qui durent dans le temps, hein, qui sont pour le coup aussi intensifs, parce qu'on est au-delà de 80% de la fréquence cardiaque maximale, donc c'est quand même un effort qui est relativement important. Et donc on regarde la conséquence de ce type d'effort sur le muscle, sur le cerveau, sur le cœur, sur la manière dont les athlètes ils s'hydratent, comment ils prennent les électrolytes aussi, le sodium, le chlorure de sodium, etc., hein, tous les minéraux dont un sportif a besoin. Donc, pas forcément. Donc, des fois, on s'intéresse à l'activité en elle-même. Des fois, c'est plutôt global pour voir un petit peu en fonction de la nature de l'effort, comment les jeunes y répondent physiologiquement, notamment.
D'accord, merci beaucoup.
Et donc, est-ce que vos recherches portent uniquement sur la préparation physique ou consacrez-vous du temps à la préparation mentale ?
Alors moi, je ne m'occupe pas du tout de la préparation mentale. Moi, j'ai des collègues qui sont spécialistes de la préparation mentale parce que ça relève d'une dimension psychologique. Moi, ma spécialité, c'est plutôt la physiologie de l'exercice et non pas la psychologie. Donc du coup, voilà, je suis plus sur cette réponse physiologique à l'effort. Et oui, la préparation physique, après, c'est plutôt une application en fait des connaissances que l'on produit à travers l'étude des jeunes à l'effort. Parce que quand on étudie par exemple l'endurance chez les jeunes, on regarde s'ils sont endurants avant, pendant ou après leur pic de croissance. Et si c'est pas le cas, eh bien, on va plutôt orienter une préparation physique orientée sur l'endurance chez les jeunes qui ne sont pas très très endurants au moment de leur croissance. Donc, en fait, c'est plutôt une application des connaissances de la recherche pour optimiser la préparation physique du jeune.
Ok, merci.
Donc, nous allons passer sur les questions sur vos étudiants en STAPS.
Donc, nous, on voulait savoir concrètement, qu'est-ce que vous enseignez à vos étudiants de STAPS ?
Alors, moi, j'enseigne particulièrement la physiologie de l'exercice musculaire chez l'enfant. Donc, notamment en deuxième année de la licence et puis aussi en troisième année de la licence. Alors, il faut savoir qu'en troisième année, il y a différents parcours. Il y a un parcours qui est plutôt orienté sur l'entraînement sportif. Après, il y a un parcours qui est, alors ça c'est pour être entraîneur, éducateur sportif, un petit peu plus tard. Et puis après, vous avez un parcours qui est plutôt sur l'éducation et la motricité, qui prépare en fait les étudiants à passer, et notamment le CAPEPS, pour être professeur de PS. Et puis après, j'interviens aussi sur le parcours APAS, c'est-à-dire activité physique adaptée et santé. Alors, ce sont des étudiants qui se destinent à être professeurs d'APAS et donc à s'occuper de populations à risque de santé. Ça peut être des populations qui alors atteintes de diabète de type 1, de type 2. Ça peut être chez les seniors, des personnes vieillissantes. Ça peut être chez des jeunes atteints d'obésité, de surpoids. D'asthme à l'effort, etc. Donc là, j'interviens aussi sur cette mention-là, et notamment sur le public jeune, sur le public enfant, parce que étant un expert dans le domaine de l'enfant, j'interviens sur ces différents niveaux, donc l'entraînement, l'éducation et la motricité, et puis tout ce qui est santé et activité physique. Voilà, notamment. Et puis après, au-delà de la licence, moi j'interviens en master. Donc là, on est sur la quatrième et la cinquième année, toujours dans le domaine de l'enfant, avec une approche un petit peu plus orientée, recherche dans les cours que j'enseigne. Mais toujours dans le domaine de l'activité physique adaptée et santé, et aussi l'entraînement sportif notamment.
D'accord, merci.
Alors maintenant, quelle méthode utilisez-vous pour enseigner à vos étudiants ?
Alors, quelle méthode pédagogique ? Alors la méthode, c'est souvent des cours magistraux. Moi j'ai mes étudiants qui sont en amphithéâtre par exemple. Si je prends la deuxième année, ils sont à peu près un peu plus de 300-350 étudiants. Donc ça fait beaucoup. Et donc là c'est plutôt des cours magistraux. C'est plutôt un enseignement un petit peu directif comme ça, avec des échanges qui sont bien entendu possible. S'il y a des questions qui sont posées par les étudiants, on y répond. Et puis après, il y a des travaux dirigés, c'est-à-dire par petits groupes. On a des groupes de 20 étudiants en salle, et puis il y a des travaux dirigés, des travaux qui sont déjà préparés en amont, et puis après, il y a un travail qui est réalisé directement par les étudiants, et puis on échange ensuite entre nous pour mieux appréhender les connaissances qui sont vues lors des cours magistraux.
Quelles sont les valeurs et principes que vous faites passer à vos étudiants ?
Les valeurs, c'est des valeurs à la fois éducatives, citoyennes. Ce qui est important, toutes les valeurs que l'on retrouve à travers la pratique sportive, la citoyenneté, les valeurs sportives, d'éducation, tout ça, c'est quelque chose de très très important. Et puis, il y a une logique aussi de développement durable, c'est-à-dire, nous, ce qui est important, c'est que les étudiants, en fait, ils, eh bien, on essaie de transmettre nos valeurs hein, qu'on a apprises à travers nos formations, et puis on essaie de les transmettre aux étudiants qui, pour plus tard, puissent les transmettre aussi à leurs futurs étudiants, hein, élèves. Donc c'est important, cette transmission de cette culture, de ces valeurs sportives et de citoyenneté. C'est très très important et on y est très très sensible, nous, en tant qu'enseignants.
Et moi, j'ai une question. Comment vous faites pour préparer vos conférences ?
Tout dépend de la thématique qui est demandée. Moi, j'interviens essentiellement sur l'enfant et le sport, et l'enfant et l'activité physique et sportive. Donc, à force d'intervenir, j'ai un discours qui est un petit peu rodé dans ma tête, hein, parce que déjà, j'enseigne auprès de mes étudiants à l'UFR STAPS, et puis après, quand j'interviens en conférence, ensuite, c'est des connaissances que je commence à très bien maîtriser. Donc, quelque part, quand j'interviens, bien entendu, j'ai un support, j'ai un PowerPoint qui est préparé. Et puis après, c'est des diapositives que je fais défiler, sur lesquelles je m'appuie. Mais sinon, après, je m'adapte aussi en fonction du contexte et des questions de la thématique qui est demandée.
Très bien. Nous pouvons passer sur les questions sur votre ouvrage. Préparation physique du jeune sportif.
Du coup, nous, on a préparé des questions sur votre livre, La préparation physique du jeune sportif. Du coup, pour commencer, comment avez-vous recueilli les informations nécessaires pour votre livre, à l'aide de vos recherches, en allant directement interviewer d'autres spécialistes ou d'une toute autre manière ?
Alors, un petit peu les deux, parce que, comme je vous le disais tout début, moi, j'ai commencé à faire de la recherche en laboratoire. Donc l'idée, c'était de produire des connaissances à partir des études expérimentales faites en laboratoire. Donc pendant des années, je me suis formé notamment sur la connaissance du jeune enfant, du jeune adolescent et puis du jeune sportif. Et puis au fil des années, on m'a demandé des conseils sur le plan sportif, comment on entraîne des jeunes, comment on les prépare physiquement. Donc j'ai été amené à intervenir dans des formations dites continues avec des professionnels du sport, des éducateurs sportifs, des cadres techniques, des cadres sportifs au niveau des fédérations. Quasiment toutes les semaines, je suis amené à me déplacer à droite à gauche pour intervenir auprès de différentes fédérations, etc., dans des formations fédérales, universitaires, à l'INSEP à Paris par exemple, auprès des sportifs de haut niveau, etc. Du coup, à force d'échanger avec ces professionnels, il m'a paru important quand même d'utiliser les connaissances et surtout de les mettre au service des milieux sportifs, éducatifs, médicaux. Ça a mûri au fur et à mesure. Et puis en 2017, j'ai décidé d'écrire un ouvrage qui s'appelle « Préparation physique du jeune sportif ». Parce qu'en 2016, je suis parti 7 mois en Australie pour aller faire de la recherche avec des Australiens. Et puis, quand je suis revenu en France, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'écrive cet ouvrage-là. Et donc, je me suis servi à la fois de mes connaissances théoriques et puis des connaissances pratiques que j'ai pu acquérir avec le milieu sportif, notamment.
Quelles ont été vos motivations pour écrire ce livre ?
Mes motivations, ça a été justement, j'ai voulu vraiment informer le milieu sportif sur la manière de dire c'est qui un jeune, à qui on s'adresse. Et puis ma motivation, ça a été d'essayer d'accompagner au mieux les entraîneurs, les préparateurs physiques, pour éviter de faire des erreurs, éviter de blesser les jeunes. De bien gérer le travail, la charge de travail, tout ce qui est volume, l'intensité, la récupération, notamment en considérant les phases de croissance, de maturation du jeune. Comment on peut aujourd'hui essayer de former des futurs champions, mais en préservant surtout l'état de santé des jeunes au niveau mental, psychologique et physique. Donc ça a été vraiment pour moi important d'apporter certaines recommandations pour éviter toutes ces erreurs et de former au mieux les jeunes de demain, nos futurs champions. Et puis, il faut savoir aussi que j'ai deux filles à la maison et que je voulais absolument les avoir en photo dans l'ouvrage. Donc, quand vous consultez l'ouvrage, j'ai mes deux modèles de croissance en photo.
Quel public spécifique visez-vous à travers ce livre ?
Alors, c'est une bonne question complémentaire parce que En fait, c'est quand on parle de jeunes, ça va de quel âge à quel âge ? Eh bien, ça va à peu près de l'âge de 5-6 ans jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Donc, en fait, on est plutôt sur un continuum des âges parce que lorsqu'on forme un jeune, lorsqu'on entraîne un jeune, il faut le faire dès le départ. Et tout ce qu'un jeune peut faire très tôt, quand il ne serait-ce qu'à l'âge de 5 ans, 6 ans, tout ce qu'il fait sur le plan sportif, sur le plan musical, sur le plan culturel, ça compte dans la formation. Parce qu'avant de vraiment rentrer dans un processus d'entraînement et de préparation physique, il faut que le jeune il faut qu'il ait la possibilité de tester, de pratiquer différentes formes de disciplines sportives. Et l'approche multisportive, multivariée, elle est vraiment fondamentale parce que ça permet aux jeunes de développer tout ce qui est habileté motrice, c'est-à-dire tout ce qui est coordination, adresse, équilibre, développer aussi... tout ce qui est prise de décision, tout ce qui est capacité perceptivo-cognitive, c'est-à-dire lorsque vous êtes sur un terrain de football ou un terrain de basket, de volleyball, de handball, il faut être capable de capter l'information, de la traiter, de l'analyser rapidement, efficacement et surtout de la rendre opérationnelle sous la forme d'un acte. Donc là, tout ce qui est prise de décision, ça se travaille très tôt. Parce que à votre âge, votre système nerveux central, il mature, il se développe et il faut profiter de cette maturation cérébrale, nerveuse, pour développer toute la motricité, développer tout ce qui est nerveux, tout ce qui est cognitif, on dit. Et donc, avant de faire une préparation physique en tant que telle, il faut faire une préparation motrice, une préparation perceptive, cognitive, avant de vouloir développer tout ce qui est qualité physique sur la force, sur la vitesse, sur la puissance, sur l'endurance, sur la souplesse. Vous voyez, et donc la préparation physique, faire attention, c'est la préparation physique, elle est plutôt faite à partir de l'âge de 14-15 ans. Et avant, c'est plutôt du moteur et du perceptivo-cognitif. Donc pour répondre à ta question, on est plutôt sur un continuum et non pas sur une tranche d'âge particulière. Donc ta question, elle est très très pertinente parce que quand on forme un jeune, on le forme très tôt et puis on le fait de manière régulière au fil de sa croissance et de sa maturation.
Merci.
Avez-vous envie de vous intéresser également à la préparation physique des adultes ?
Oui, bien sûr. Moi, par exemple, j'ai les prérogatives d'exercice de préparateur physique chez les adultes qui font des compétitions sportives, même de haut niveau. Avant de parler de l'adulte, il faut vraiment parler de l'enfant parce que l'enfant n'est pas un adulte en miniature. Et puis l'enfant, comme le disait Jean-Jacques Rousseau, l'enfant est un petit de l'homme, mais pas un petit homme. Vous voyez un peu la nuance ?
Oui.
Et donc parce que les enfants, ils ont leur propre particularité, leur propre spécificité sur un plan psychologique, sur un plan biomécanique. Sur un plan anthropométrique, etc., etc. Donc, l'enfant est un être vraiment singulier. Avant de parler de l'adulte, il faut vraiment s'intéresser à l'enfant et surtout bien le former pour qu'une fois adulte, il puisse être le meilleur possible.
Pour vous, qu'est-ce que réellement la préparation physique ?
Alors, la préparation physique, on se prépare... si je reprends les deux termes, on se prépare physiquement. Mais pour se préparer physiquement, ça veut dire qu'il faut savoir développer son niveau de force. Il faut savoir développer la puissance, la vitesse, l'endurance aussi, être capable de tenir un effort dans le temps, sur la durée, à une intensité peut-être plus ou moins élevée. C'est être capable aussi de travailler la souplesse, être capable d'avoir une bonne mobilité articulaire, d'avoir une bonne souplesse musculaire, ça c'est important aussi lorsque on est gardien de handball par exemple. Il faut être capable, pour arrêter le mieux possible les ballons, il faut faire preuve d'une grande souplesse, etc., etc. Donc quand on parle vraiment d'une préparation physique, d'un développement physique, on est orienté sur le développement de ses qualités physiques. Mais avant de vouloir rentrer dans le développement des qualités physiques, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut absolument développer la coordination motrice qui est fondamentale pour produire de la force, de la vitesse, de la puissance. Il faut travailler l'adresse. L'adresse, c'est être capable de changer de direction très rapidement pour faire la différence, pour dépasser un adversaire, par exemple, quand on joue au foot, hein, voilà, pour dépasser le défenseur, eh ben, il faut être capable tout de suite d'être adroit et de changer rapidement de direction, voilà, pour aller marquer. Et puis l'équilibre aussi, l'équilibre, voilà, il faut être bien équilibré, bien gainé, être bien gainé verticalement pour, pareil, être habile et faire la différence en termes de performance. Donc cette préparation physique, ça prend du temps, c'est un processus qui prend du temps, mais en tout cas, voilà, on est plutôt sur une notion, voilà, de développement des qualités physiques.
Est-ce que le développement de ces qualités physiques chez l'enfant permet-elle ensuite d'optimiser la performance chez l'adulte ?
Ah, complètement. Ça se construit. C'est un processus qui prend du temps, qui est lent. Et avant de vouloir optimiser la performance, il faut plutôt réfléchir à la robustesse, renforcer la robustesse des jeunes. Et quand on parle de robustesse, ça veut dire être capable de rendre les jeunes adaptables et non pas adaptés. Parce que si on les rend adaptés, si on répète toujours le même mouvement, dans les mêmes conditions, dans un même contexte, eh bien, on rend les jeunes adaptés. Mais le problème d'être adapté, ben, si on vous sort de la situation, si par exemple on vous demande de faire autre chose, ben là vous n'êtes plus adaptable. Donc faire attention entre cette adaptation et cette adaptabilité. C'est deux termes, deux notions différentes. Et il faut éviter d'hyper-spécialiser trop tôt, c'est-à-dire éviter cette adaptation. Par contre, si vous rendez un jeune adaptable, voilà, robuste, eh bien plus tard il sera performant. Et ce niveau de performance, il sera durable. Vous voyez, on est dans une logique de développement durable. Voilà, donc ta question, elle est pertinente. Ouais.
Très bien, merci.
Aucune autre question ? Très bien, donc nous allons pouvoir passer sur des questions pour notre propre pratique, si vous avez des conseils, etc.
À partir de combien d'heures de pratique sportive cela devient dangereux pour un adolescent ?
Alors, il y a une règle qui existe, mais qui est complètement critiquable, c'est-à-dire c'est par rapport à l'âge. C'est-à-dire que si vous dépassez en nombre d'heures d'entraînement hebdomadaire votre âge chronologique, eh bien, ça peut devenir dangereux. C'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas, vous avez quel âge, vous ?
Moi, j'ai 15 ans.
Tu as 15 ans. Donc, si à 15 ans, tu fais, admettons, 17 ou 18 heures d'entraînement par semaine, eh bien, ça peut être dangereux. Mais c'est une règle qui, quelque part, ne veut rien dire. Parce que qu'est-ce qu'on y met derrière le contenu de l'entraînement ? Si tu fais 5 heures de course à pied, ce n'est pas 5 heures d'activité de nature enchaînée, comme ça, diversifiée. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous prenais l'exemple du raid multisport de nature, où vous allez faire du kayak, vous allez faire du roller, de la tyrolienne, de la corde d'orientation, du VTT. Vous voyez, là, vous avez des activités à poids porté et des activités à poids non porté. Et quand vous êtes sur une activité à poids porté, c'est-à-dire faire du vélo, être sur faire du kayak, etc., bien vous avez beaucoup moins de contraintes mécaniques qui s'exercent sur le muscle ou sur l'os. Vous voyez, donc c'est moins dangereux quelque part de faire une activité dont le poids est totalement porté, voilà, et que si vous faites une activité où le poids est non porté, vous faites que de la course à pied, où là vous allez subir des chocs mécaniques au niveau de l'os, et là l'os vous pouvez le blesser. Vous voyez? Donc en fait, tout dépend comment l'entraînement il est géré. Voilà, ça c'est une première chose. C'est quelle est la nature de l'activité que vous allez pratiquer au sein de votre entraînement. Et puis, il y a aussi cette notion de progression de la charge de travail. Dans la charge de travail, vous avez le volume. Alors le volume, il est calculé sur le nombre de séries que vous allez faire, le nombre de répétitions par série, sur la distance que vous allez répéter à chaque fois, etc. Donc ça va constituer votre volume total. Et puis après, vous aurez l'intensité du travail qui va être basée sur le niveau de fréquence cardiaque, sur la vitesse de course, etc. Et puis il y aura la récupération, c'est-à-dire que la récupération, elle sera plus ou moins importante entre les séances, entre les séries, entre les répétitions. Donc tout ça, en fait, ça va conditionner votre charge de travail. Et en fait, là où c'est dangereux, c'est lorsque votre charge de travail, en fait, elle passe du simple au double, comme ça, du jour au lendemain, il n'y a pas cette progression qui est respectée. Et surtout sur des organismes comme les vôtres qui sont en plein développement, en pleine maturation. Parce que vous avez à votre âge, 15 ans, notamment chez vous en tant que garçon, vous avez un corps qui grandit très vite. Vous pouvez prendre, je sais pas moi, 10-12 cm sur une période très courte. Hein. Et donc, si votre corps il grandit très vite et qu'il n'est pas protégé musculairement, si votre charge de travail est trop importante, vous pouvez le blesser, votre corps. voyez. Donc là, tout à l'heure, je vous disais, il y a un pic de croissance rapide de votre taille. Il est à peu près à 12 ans chez la fille et 14 ans chez le garçon. Et bien, quand vous grandissez vite comme ça, vous êtes sur un corps qui se transforme tellement que si vous lui imposez un travail qui est trop conséquent, eh bien, vous pouvez le blesser. Vous pouvez vous blesser. Donc, c'est une question de logique et de progression de la charge, surtout sur un corps qui se transforme à votre âge.
Après une séance sportive, est-il obligatoire de faire des étirements ?
Ah ben c'est recommandé. Après, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est recommandé. Des fois, l'entraîneur, il veut vraiment augmenter le volume et puis au détriment, finalement, du retour au calme et de cette phase d'étirement. Mais il vaut mieux prévoir quelques minutes d'étirement, voilà. Alors, les étirements, vous pouvez les faire de manière dynamique durant la séance d'exercice. Hein. Il suffit, voilà, de faire des mouvements de grande amplitude, mais dynamique. Là, vous allez pouvoir étirer vos chaînes musculaires. Mais après, rien ne vous empêche, après votre séance, eh bien, de vous installer au sol comme ça et de faire des étirements dits statiques, voilà, où vous faites des petites séquences d'étirements, pas jusqu'à la douleur, mais en tout cas, étirer les différents groupes musculaires. Et ça, c'est bénéfique, voilà, pour faciliter la récupération, l'élimination eh bien, des produits métaboliques hein, qui se sont accumulés, qui sont à l'origine de la fatigue. Donc la récupération permet de faciliter cette élimination de ces produits-là. Et puis ça permet aussi de mieux réoxygéner le muscle et donc lui permettre de mieux récupérer. Donc moi, ce que je propose, c'est toujours faire des petites séquences de 5 à 10 minutes voilà, à la fin de chaque séance. Et ce qui compte, c'est la régularité. La régularité est aussi un principe de l'entraînement.
L'échauffement est-il vraiment la partie la plus importante de la séance ?
Alors, ça fait partie, c'est une phase importante de la séance parce qu'il faut bien s'échauffer, il faut que le corps monte en température, il faut que les muscles aussi montent en température. Voilà, c'est très important parce que si le muscle n'est pas chaud, eh bien, il ne pourra pas produire une puissance suffisante. Hein, pour qu'un muscle puisse être puissant, il faut qu'il soit chaud, hein, ça c'est important. Pour la mobilité articulaire aussi, c'est important. Il faut que au niveau de l'articulation, eh bien, le liquide, qu'on appelle le liquide synovial, la synovie, hein, c'est le liquide qui lubrifie les articulations, eh bien, il faut que ce liquide aussi monte en température pour que, voilà, que la mobilité puisse se faire correctement. Et puis, pour que le métabolisme aussi énergétique puisse aussi se faire aussi correctement, il faut que, pour que les enzymes hein, travaillent correctement, eh bien, il faut aussi augmenter en température. Donc, l'échauffement, c'est très, très important. Mais ça fait partie, c'est un élément parmi voilà, la séance complète. Mais c'est une phase à ne pas négliger pour éviter aussi les blessures durant la partie principale de l'entraînement.
Y a-t-il des mouvements à éviter ou à limiter après un effort physique ?
Ce qui compte, c'est de diversifier un petit peu les mouvements. C'est-à-dire que, par exemple, quand on entraîne des jeunes, il faut essayer de travailler... sur l'ensemble des articulations. C'est-à-dire, on dit ça des mouvements polyarticulaires. C'est-à-dire que si vous travaillez seulement un mouvement dit monoarticulaire, c'est-à-dire juste une extension de la jambe par rapport à la cuisse, par exemple, hein, vous mobilisez que l'articulation du genou, ça n'a pas de sens, en fait. Hein. Et donc, ce qui compte, c'est de travailler la coordination intermusculaire entre les groupes musculaires sur des mouvements polyarticulaires, un peu complexes, c'est-à-dire sur des activités de course, de lancer, de saut. Et surtout avoir une approche un petit peu diversifiée, multivariée, voilà, pour justement optimiser ce niveau de coordination intermusculaire. Ça veut dire entre les muscles agonistes, effecteurs du mouvement, et les muscles antagonistes, c'est-à-dire les muscles freinateurs du mouvement. Parce que quand vous faites, par exemple, quand vous tapez dans le ballon, eh bien, vous allez mobiliser les quadriceps hein, pour assurer l'extension de la jambe. Mais il faut savoir que les antagonistes, hein, il y a des muscles freinateurs, vous connaissez peut-être les ischio-jambiers, eh bien, les ischio-jambiers, ils freinent l'extension de la jambe. Donc, il y a toujours, vous voyez, une coactivation entre ces muscles effecteurs agonistes et ces muscles freinateurs antagonistes. Et donc, ça, c'est de la coordination entre les muscles. Donc, c'est très important, voilà, de travailler cette coordination, mais sur l'ensemble des articulations et l'ensemble des groupes musculaires, si vous voulez vraiment être fort par la suite.
Pour vous, quelle proportion de temps faut-il accorder à la préparation sportive ?
Alors, qu'est-ce que tu entends par préparation
sportive ? Par rapport à une préparation physique, par rapport à un entraînement qui peut être tactique, par exemple.
Oui, alors ben, après tout dépend des conditions que vous avez et que l'entraîneur il a. Des fois, voilà, dans la semaine, il n'y a que deux séances, peut-être trois séances, voire moins, il y a peut-être une séance par semaine. Donc tout dépend des conditions qu'a le coach, qu'a l'entraîneur. Si vous vous entraînez tous les jours, ce n'est pas la même chose que si vous entraînez une fois par semaine. Donc en fait, la préparation physique, elle est soit intégrée dans la séance, c'est-à-dire propre à la discipline. Et là, vous faites une préparation voilà, dite intégrée à la discipline. Mais ça, vous pouvez le faire quand vous avez une à deux séances par semaine. Hein. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas consacrer une séance à part de la discipline propre à de la préparation physique. Maintenant, si vous vous entraînez cinq ou six fois par semaine, eh bien, il y a peut-être une ou deux séances qui seront prévues spécifiquement sur la préparation physique et qui sera complémentaire à votre discipline. Donc, en fait, tout dépend des conditions dans lesquelles vous vous retrouvez.
Y a-t-il vraiment une différence entre la préparation physique des enfants et celle des adultes ?
Ah, complètement. Complètement, parce que, comme tout à l'heure, je vous disais qu'il ne faut pas considérer l'enfant comme un adulte en miniature, ou c'est un petit de l'homme, mais pas un petit homme. Pourquoi ? Parce que, avant d'entraîner un jeune, il faut comprendre comment il grandit. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous, à votre âge... Je vous ai parlé tout à l'heure d'un pic de croissance rapide de la taille. Et donc, ce pic de croissance rapide de la taille, il a lieu à 12 ans chez la fille et il a lieu à 14 ans chez les garçons. Mais il faut savoir que quand vous grandissez, vous grandissez d'abord par les jambes et ensuite par le tronc. Donc, ça, les parents, vos parents, ils le savent, hein, parce qu'il faut d'abord changer vos chaussures, ensuite, c'est changer vos pantalons, et on finit par changer vos pullovers, vos t-shirts, d'accord ? Donc, en fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand vous avez des proportions corporelles qui se modifient sans cesse, vous voyez, hein, vous grandissez par les jambes, ensuite, vous grandissez par le tronc, vous avez un corps qui se transforme, voilà. Et il n'est pas rare de voir des jeunes être maladroits par moment parce que votre corps il change tellement en termes de proportions et même en termes de composition corporelle aussi. Parce que dans la composition corporelle, vous avez de la masse musculaire, vous avez de la masse grasse. Et cette composition ici, elle évolue avec la croissance. Donc tout se modifie. Et donc vous avez beau vous entraîner avant le pic de croissance rapide, okay, mais pendant ce pic, vous voyez, votre schéma corporel se transforme. Et là, il faut faire attention à ne pas faire d'erreur en termes de préparation physique ou d'entraînement parce que si le coach il gère mal son travail, il peut blesser ses athlètes. Voilà. Et donc, il y a un principe de base, on va de la qualité du travail vers la quantité de la qualité du travail. Vous voyez, il y a toujours cette notion de qualité du travail. Il faut mettre l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité en elle-même. Sinon, si le volume, la charge de travail est trop conséquente, eh bien, vous pouvez vous blesser.
À partir de combien de temps une séance de préparation physique est-elle bénéfique ?
Alors, il n'y a pas une séance, il ne faut pas tout baser sur une séance, en fait. Oui. C'est vraiment une planification. Et une planification, quand on entraîne, il faut planifier les choses. C'est-à-dire, l'entraîneur, lui, quand il a des athlètes, eh bien, il essaye d'organiser son travail sur l'année, par trimestre, par semaine, par séance, tout est planifié, tout est programmé. Et tout dépend en fait des compétitions qui sont visées, des objectifs qui sont fixés. Et donc, quand il y a une qualification, par exemple pour des championnats de France, quand il y a, un objectif qui est vraiment précis, eh bien, l'entraîneur il essaie de planifier tout ça, vous voyez, pour que vous soyez au top le jour de la compétition. Donc en fait, c'est pas, faut pas raisonner sur une seule séance, mais plutôt sur une période à gérer, voilà, pour amener l'athlète à son pic de forme et être performant le jour J de la compétition. Voilà. Et sur une année complète, généralement, vous avez deux pics de forme. Et ces deux pics de forme, normalement, ils correspondent à des compétitions phares de l'année.
Est-ce que le surentraînement peut engendrer des effets négatifs ?
Ah, complètement. C'est-à-dire que là, on parle de surentraînement, même de burn-out. Hein. Et donc, le surentraînement, c'est lorsque la charge de travail est trop conséquente et que le corps, il peut pas supporter cette charge de travail. Et des fois, l'athlète, il rentre dans ce surentraînement. Et ce surentraînement, il est souvent lié à, à une balance énergétique qui est négative. C'est-à-dire que vous vous entraînez tellement, vous avez une dépense énergétique qui est tellement élevée, parce que vous vous entraînez peut-être tous les jours, deux fois par jour, l'apport en énergie, en fait, il est insuffisant. Et quand on parle de balance énergétique, c'est la balance entre les apports en énergie, par l'alimentation, par la nutrition, et les dépenses liées à l'activité physique. Mais il n'y a pas que l'activité physique qui est propre à l'entraînement, il y a toute l'activité physique qui est faite en EPS, qui est faite aussi dans la vie et dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, c'est ça l'activité globale. Et si cette balance énergétique elle est négative, vous ne pouvez déjà pas grandir, parce que la première des choses c'est grandir pour vous, hein. Donc si vous ne pouvez pas grandir, déjà c'est un problème. Donc si vous ne pouvez pas grandir et ensuite vous n'avez pas suffisamment d'énergie pour vous entraîner, là vous pouvez rentrer vraiment dans ce surentraînement. Et donc là, attention, parce que ça a un impact très négatif au niveau psychologique et sur votre santé mentale. Donc il faut faire très attention à cette gestion entre ses apports en énergie et ses dépenses d'énergie.
Est-ce que la préparation physique est-elle différente en fonction du sexe ?
Alors oui, complètement. Prenons la fille par exemple, lorsque elle est en plein pic de croissance, on va dire 12 ans, la fille va grandir et en même temps prendre de la masse. D'accord ? Ça se fait en même temps. Sauf que la fille, généralement, à sa puberté, sous l'effet d'une hormone qu'on appelle les œstrogènes, elles ont tendance peut-être à prendre plus de masse grasse au détriment de la masse musculaire. Donc quand on calcule un rapport poids-puissance, ce rapport peut lui être défavorable, c'est-à-dire elle est plus lourde, mais ça c'est lié à cet excès de masse grasse au détriment de la masse musculaire, et elle perd en puissance. Donc si ce rapport poids-puissance lui est défavorable, tout ce qui est activité aérienne, sur des sauts par exemple, sur des sauts à la paire, des sauts en longueur, des sauts en hauteur, sur des acrobaties, etc., ça peut être contre-productif. Donc en fait, il y a une préparation physique spécifique à la fille à adopter. Le garçon, c'est un petit peu différent. Le garçon, lui, va grandir à 14 ans, mais il va prendre de la masse musculaire seulement à 16 ans. C'est-à-dire qu'entre 14 ans et 16 ans, il est grand, mais sa colonne vertébrale n'est pas protégée musculairement. Vous voyez ? Donc il y a une période sensible chez le garçon entre ses 14 ans et 16 ans où il faut adopter une préparation bien spécifique, c'est-à-dire par exemple au niveau du rachis, de la colonne vertébrale. Si la colonne vertébrale n'est pas bien protégée, ça peut être des déformations du dos, des lordoses, des scolioses, des syphoses. Donc il faut absolument faire du gainage musculaire, vertical notamment, pour protéger la colonne vertébrale. Et chez la fille par exemple, il y a souvent ce qu'on appelle un valgus dynamique chez la fille post-pubère, on va dire vers les 15 ans, 16 ans. Des fois, les filles ont des genoux qui rentrent l'un sur l'autre. C'est ça le valgus. Parce qu'il y a une faiblesse au niveau des muscles de la hanche, qu'on appelle les petits et moyens fessiers. Les abducteurs de la hanche sont trop faibles par rapport aux adducteurs, les muscles qui sont à l'intérieur de la cuisse, des cuisses. Par ce déséquilibre musculaire, les genoux rentrent l'un sur l'autre. Les pieds ne se mettent pas à plat sur le sol, on dit qu'ils sont en éversion. Et donc, il n'y a pas de stabilité chez la jeune fille sur des réceptions de sauts, sur des impulsions de sauts. Et là, la fille, elle peut se blesser au niveau des ligaments, notamment au niveau des ligaments croisés antérieurs. Vous voyez, les croisés au niveau du genou. Donc, pareil, il y a une préparation très spécifique chez la fille à faire, à bien renforcer les muscles des fessiers, un petit moyen fessier, si on veut éviter trop ce valgus et ces genoux rentrer sur l'intérieur. Il y a des tas d'exemples comme ça. Mais en tout cas, ça vous montre que la préparation physique chez la fille n'est pas la même que chez le garçon.
Je voudrais savoir, avez-vous un conseil de manière générale à donner à un jeune sportif ?
De prendre du plaisir. Ce qui est important, c'est que quand on va s'entraîner, quand on va, on va faire du sport, c'est prendre du plaisir. Je pense que le plaisir, c'est le levier, c'est le premier levier sur lequel il faut agir pour fidéliser, engager durablement en fait un jeune à pratiquer longtemps. On est dans une logique de développement durable. Et si tout de suite on cherche la performance trop rapidement, et qu'on veut s'entraîner trop vite, trop intensément, c'est au risque de se blesser. Et donc un conseil, c'est ce plaisir. Il faut être bien dans le groupe avec lequel vous vous entraînez. Il faut être bien avec le coach. Il faut trouver sa place, mais surtout prendre du plaisir. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment... C'est pour moi la chose la plus importante à valoriser. chez le jeune.
Donc très bien, nous avons fini avec toutes nos questions. Merci beaucoup de votre venue, Sébastien. Merci d'avoir répondu à nos questions et c'est à peu près tout. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Prépa Cham. Et les collègues sportifs.
Vous voulez progresser?
Rejoignez-nous sur
Prépa Cham.